France Inter présente Stéphane Guillon dans son nouveau spectacle Liberté surveillée, actuellement au théâtre de Jazet à Paris.
Vous voulez plus naître? Moi, vous m'auriez dit ça il y a 6 mois, on s'arrangeait. J'ai plein de formules où on peut revenir très vite. Il y avait la famille Courgeot qui aurait été bien pour lui. Elle vous aurait renvoyé tout de suite. FedEx, on l'avait surnommé, tu te souviens?
Retrouvez l'humeur de Stéphane Guillon du lundi au mercredi à 7h55 et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel, c'est en direct de Nevers. Nous sommes devant la préfecture, essayons de demander une audience au préfet pour la libération du centre de rétention administrative de Vincennes d'un de nos amis géorgiens et apatrides, qui a été envoyé donc au CRA hier après-midi. Devant le refus explicite du préfet, nous avons depuis à peu près une demi-heure commencé un battrage filtrant en essayant d'expliquer la situation à l'ensemble de nos concitoyens. Donc nous essayons et nous espérons véritablement que le préfet arrivera à nous recevoir, sinon nous continuerons à faire beaucoup de bruit. Voilà, nous te tiendrons au courant de la situation dans les jours suivants. Merci encore et bravo pour ton émission. Ciao.
Bonjour Daniel, c'est Bérangère de Paris. Voilà, j'appelle parce que moi j'ai entendu qu'Éric Besson avait annoncé que les expulsions vers Haïti étaient suspendues. Alors ça doit pas lui coûter grand chose hein, de dire ça, vu qu'en ce moment on imagine mal qu'un avion atterrisse à Haïti avec une caisse de vivres, une caisse de matériel médical et puis entre les deux un expulsé menotté. Et le plus grave, c'est que M. Besson profite de cet événement absolument atroce pour mettre en avant sa grande humanité. C'est une grande générosité que par envoyer chez eux des Haïtiens en ce moment. Je pense que s'il avait voulu faire une action juste, et je parle pas d'une bonne action, parce que s'abstenir de mal faire, c'est pas une bonne action. Il aurait pu la faire tranquillement sans la claironner. Ça laisse un peu à penser que ses motivations sont moins humanitaires que singulièrement et dégueulassement politiques. Monsieur Besson, il y a une expression en français qui dit « cela va sans dire ». Je pense que ce serait une bonne idée que vous étudiez la question.
J'ai entendu vendredi sur ce répondeur un chercheur de Lyon qui m'a personnellement insulté en traitant d'enfoirés et d'ultra-réactionnaires les opposants aux nanotechnologies et en nous assimilant à des assassins potentiels. Je voudrais juste rappeler aux auditeurs qu'il se joue en ce moment une révolution majeure dans les laboratoires et les multinationales comme IBM, Nestlé, Bayer, Arkema et les autres. La révolution des nanos, c'est maintenant que chacun de nous doit s'en préoccuper pour ne pas laisser les seuls ingénieurs et chercheurs décider de notre avenir commun. Voulons-nous, par exemple, une planète entièrement informatisée, depuis les arbres jusqu'aux humains, en passant par chaque objet familier transformé en terminal électronique? Voulons-nous une vie entièrement pilotée par la machine? Voulons-nous devenir des cyborgs avec des implants électroniques dans le corps et le cerveau pour améliorer les performances des plus riches et mieux contrôler les autres? Voulons-nous encore plus de gadgets communicants débiles, de bouffe industrielle encore plus artificielle, pleine de nanoparticules? Ces quelques questions sont politiques. Elles sont du ressort du peuple, de chacun de nous. Elles ne sont pas techniques et réservées aux seuls experts. Surtout, on aurait dû se les poser avant d'investir massivement dans les nanotechnologies et de décider sans nous consulter que notre avenir serait le pire cauchemar d'Orwell, d'Huxley et de Philippe K. Dick. Mais il paraît que dire tout ça, c'est être ultra-réactionnaire de nos jours. Salut à tous.
Salut à tous les AMG, salut à toi Daniel et à ton équipe. À Toulouse, ce jeudi 21 janvier, l'activiste catalan Enric Duran, le Robin des banques, participera à une conférence débat intitulée « Nous pouvons vivre sans capitalisme ». Il nous expliquera comment exproprier l'argent des banques sans faire usage d'un pistolet. Ça se passe ce jeudi au lieu associatif La Chapelle, à Toulouse, au 36 rue Daniel Casanova, métro Compense Caffarelli. Ouverture des portes à 19h, début de la conférence à 20h. À jeudi.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les AMG. Concernant l'Inde, j'y étais il y a quelques années et j'ai rencontré un Indien qui était très content d'être devenu policier. Il était très content, mais il m'a dit que quand même, ça lui faudrait 7 ans pour rembourser toutes les commissions qu'il avait dû verser afin de pouvoir devenir fonctionnaire de l'État, donc de la corruption. Voilà, donc ça donne bien un petit peu l'ambiance qui règne dans le monde policier indien.
Oui, bonjour à tous, c'est Jacques à Montreuil. Daniel, quel beau reportage tu nous as donné. Ce superbe camp d'entraînement, capable de transformer des policiers bedonnants en Rambo super musclés. Et en 45 jours, du bonheur de sentir toute l'admiration que tu ressentais pour cet officier formateur, tout le respect qu'il t'inspirait, ainsi qu'à nous autres, auditeurs modestes, respect pour les grands principes énoncés par ce défenseur de la liberté, comment il nous a séché cet immense meneur d'hommes, toutes ces qualités qu'il a su nous montrer. Bravo et merci pour la jubilation qui fut la mienne de te voir pénétrer les secrets de l'organisation du bonheur de tous.
Eh bien, on est très content si ça a pu être édifiant, ce reportage de vendredi dernier, hein, dans ce centre d'entraînement au milieu de l'Inde, dans l'état du Chhattisgarh, où effectivement sont entraînés, se préparent des hommes, des policiers notamment, des unités de police de cet état, mais d'autres états aussi, à la lutte contre la guérilla. Et cette lutte, elle est en cours depuis plusieurs années, mais là, il y a une grande opération qui est menée notamment dans le sud de cet état, du Chhattisgarh, contre cette guérilla maoïste dite Naxalite ou Naxalite, si on veut garder l'accent local. Intéressant quand même, hein, cette histoire considérée comme le problème d'insécurité numéro 1 en Inde par le gouvernement lui-même, par le Premier ministre de l'Inde lui-même. En effet, aujourd'hui, des quantités de districts, 2/3 des districts de l'Inde sont sous contrôle, ou du moins, dans ces districts, dans la majorité de ces districts, là, cette guérilla est active. C'est donc un élément de déstabilisation important. On va voir aujourd'hui que derrière cet affrontement entre une guérilla s'appuyant sur des populations paysannes et les autorités, il y a d'autres enjeux derrière qui sont des enjeux évidemment économiques et notamment industriels autour des ressources naturelles qu'on trouve dans ces régions. Alors, c'est un enjeu important et c'est des situations qu'on trouve ailleurs dans le monde. Comment des grandes compagnies, des multinationales ou des grandes entreprises nationales, comme c'est le cas en Inde, cherchent à s'implanter dans des régions pour exploiter les ressources, à la condition, bien évidemment, que les populations aient la courtoisie de partir, d'aller voir ailleurs si elles y sont, et éventuellement avec l'aide des autorités. Sauf que là, dans cette région, depuis pas mal d'années, cette guérilla est implantée, les habitants, ben, tout naturellement, se servent, s'appuient sur cette guérilla pour se défendre, c'est-à-dire pour... Ils n'ont rien, ils n'ont que ça pour se défendre. Et voilà quelques éléments de l'enjeu et de ce conflit si important aux yeux des autorités de l'Inde, cet énorme pays dont nous parlons si rarement dans notre hexagone. Auparavant, encore un message parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Samedi, le 16 janvier, je tombe sur l'émission politique de France Culture en fin de matinée. Puis j'entends un journaliste qui dit à l'invité, alors je ne savais pas qui c'était l'invité. Oui, alors vous dites que le clivage droite-gauche est dépassé. Je me dis, bon, ben ça doit être Bayrou. Et puis non, pas du tout, je comprends quelques minutes après qu'il s'agit de Dominique de Villepin. Alors Dominique de Villepin, donc il est ni de droite ni de gauche. C'est nouveau, comme disait quelqu'un récemment sur le répondeur. Ça vient de sortir. Non, c'est pas très nouveau d'être ni de droite ni de gauche. Et puis quand on lui demande quelles étaient ses solutions pour la politique économique, alors... Il dit qu'il faut que la France soit beaucoup plus compétitive. Et ça, être beaucoup plus compétitif, c'est ni de droite ni de gauche. Puis dans le journal d'aujourd'hui, lundi 18 janvier, je vois que, sous le titre « Le retour de la droite », on annonce l'élection à la présidence de la République aussi de Sébastien Piñera, un entrepreneur multimillionnaire qui a remporté le second tour de la présidentielle au Chili. Ramenant ainsi la droite au pouvoir, nous dit-on. Et puis dans le même article, on nous apprend qu'il succédera en mars à Michel Bachelet, qui termine son mandat à des taux d'approbation record, à 80%. mais n'était pas autorisé par la Constitution à briguer un deuxième mandat consécutif. Alors, tout ça, ça me laisse pensif. Et je me dis, en fait, ce sont les mêmes gens qui étaient satisfaits de Mme Bachelet, ou plutôt une majorité des gens qui étaient satisfaits de Mme Bachelet, ont voté pour M. Pignerat. Et alors j'en tire la conclusion suivante, c'est que lorsque le clivage gauche-droite n'existe plus, eh bien c'est toujours la droite qui gagne. Tout ça, c'est pas très réjouissant, Daniel, tu trouves pas? Comme si les gens qui aimaient Jospin avaient voté majoritairement pour Chirac en 2002, par exemple, et puis pour Sarkozy en 2007. Bon, ça, on sait qu'en France, c'est pas possible, mais... Oh, putain, il y a vraiment de quoi... Enfin, je dis pas de quoi, mais il y a de quoi, vraiment. Ça devient très, très dur, Daniel. Très dur.
Le tir, et ils retournent le tir immédiatement.
Move forward.
Ils avancent.
They're chasing him.
Voilà, ils poursuivent le terroriste qui a tiré par là.
Ils n'ont pas trop de tigres par ici.
They are now in a desperate situation that the tiger has woken up and is coming for you.
Parce que maintenant ils sont dans une situation désespérée, les Naxalites, parce que le tigre s'est réveillé et il va les chercher.
C'est vous le tigre?
Take it or leave it, yeah.
Vous trouvez ça comme vous voulez.
Some 8 people were killed.
8 personnes ont été tuées.
3 girls were raped.
3 filles violées.
Taken to the jail.
Emmenées en prison.
In the name of that they are Naxalites.
Soi-disant parce que c'était des Naxalites.
They propose a true democracy which would represent the will of the people.
Et eux proposent de remplacer ce pouvoir par une vraie démocratie qui représenterait la volonté du peuple.
So this is the Naxalite.
Yeah, the camp.
Ça, c'est le camp. On arrive sur le camp Naxalite.
Enemy territory.
C'est le territoire ennemi.
I have become quite open to die.
Je suis prêt à mourir.
When somebody decides to die, he becomes the most dangerous man.
Parce que quand quelqu'un a décidé de mourir, est prêt à mourir, c'est là où il devient le plus dangereux.
Est-ce que vous n'êtes pas embêté par les serpents?
Plenty of snakes. We are all friends of the snakes.
Nous, on n'a pas peur. Il y en a plein. On les attrape et on les mange.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est la base que j'y suis avec Guy Ventil. Inde, la dernière guérilla.
Flight number 2. Arriving from...
On cherche à rencontrer les gens ici dans le village.
Hindi
punnam. Hindi nahi aati hai.
On se comprend pas.
Chhattisgarhi bolte ho.
Hindi.
Gondi bolte ho.
C'est le petit enfant, celui qui va à l'école, qui parle un tout petit peu hindi. Alors, est-ce qu'il peut nous montrer ce qui parle hindi, le petit qui parle hindi?
Dans l'autre, dans ce camp, hein, c'est désert, il n'y a pas d'habitants. On voit que c'est un camp de réfugiés, hein, ouais. Avec fait de branches, de terre, de toits de tôle.
Thanks.
Thanks. Voilà, le petit garçon nous a emmenés jusque là. Là, il y a une pompe. On va voir si des gens parlent hindi, parce que comme les gens ici sont des adivasis, c'est-à-dire des tribaux, des gens des tribus, ils parlent pas hindi. Ils parlent koya ou gondi, c'est-à-dire les langues tribales. On va entrer. Maison. Ah ben voilà. Les petits poulets, le linge qui sèche, les branches sous les marmites qui brûlent. Bonjour. Comment ça se passe la vie ici?
On aime bien.
D'où vous venez?
Dubato. Avant, on était à Dubato.
Mais qui est-ce qui vous a chassé de là-bas?
Oh, Sarkarilla. C'est le gouvernement qui nous a amenés ici.
Oh, Sarkarilla, pura gam gam jama ok.
C'est les gens du gouvernement qui sont allés d'un village à l'autre en disant aux gens, mais venez avec nous, si vous restez ici, on va vous tuer, vous allez vous faire tuer.
Mais quand on vous disait, on va vous tuer, qui pouvait vous tuer?
ऐसे गम गम जा जा के जमा करके लाए अब चावल दे दे के कितना बार देंगे उन लोग आदिवासी लोग फिर चले गए गम गम
Je ne sais pas, il disait que les gens qui viendront de l'intérieur de la forêt vont vous tuer.
Il y a Mais peut-être des qui... mots qu'il vaut mieux pas prononcer, c'est ça
Non.
Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Peur. Mais qui allait vous tuer C'était les Naxals
Oui.
Elle hoche de la tête.
Vous en avez peur, vraiment
La guérilla est dans le peuple comme le poisson dans l'eau. On le disait, on attribue cette phrase à Mao Tse-tung, mais elle est bien plus ancienne comme ça. N'importe quel chef connaît cette expression. La guérilla est dans le peuple comme le poisson dans l'eau. Donc, si l'eau, c'est le peuple, eh bien, il suffit de vider l'eau pour attraper le poisson ou le laisser mourir. Vider l'eau, c'est déplacer le peuple. Et c'est ce qui se passe dans le sud de cet état du Chhattisgarh. Les autorités, et on va voir lesquelles, ont déplacé les habitants des villages. 600, 700 villages auraient été ainsi déplacés. Les populations de 600 à 700 villages auraient été déplacées et replacées dans des camps de réfugiés, appelons ça comme ça, regroupés en tout cas. Et c'est là où nous sommes, dans un endroit qui s'appelle Dornapal, dans le sud donc du Chhattisgarh, dans une région où les affrontements entre la guérilla et les autorités sont très très fréquents, beaucoup beaucoup d'affrontements, d'accrochages. On l'a vu l'autre jour en commençant cette série de reportages, une mine qui avait été posé au milieu de la route avec cette explosion et ses morts. Et donc les habitants ont été déplacés. Comment ont-ils été déplacés ? Eh bien, par le truchement de milices. Des milices qu'on appelle les milices Salva Judum. Salva Judum. Et ces milices, en fait, ont été construites un peu plus ou moins de force par les autorités, à partir de recrutements dans la population, avec des promesses de pouvoir rentrer dans l'administration ou dans la police. En tout cas, ce sont ces milices qui ont fait le boulot, on peut dire sale boulot, de pousser leurs voisins, leurs congénères, dans ces camps de façon à libérer tout l'espace pour les affrontements entre la guérilla et les forces de l'ordre. C'est une vieille technique, elle est très connue, elle a été utilisée notamment par l'armée américaine au Vietnam et c'est ainsi que nous nous trouvons dans ce camp de réfugiés. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on va le voir, le camp dans lequel nous arrivons, qui nous a été un peu déconseillé, « Oh, pourquoi allez-vous là-bas C'est un peu loin, on peut vous présenter d'autres camps plus près, vous n'aurez pas allé si loin. » Bien sûr, c'est que les forces de police, notamment, n'avaient pas trop le goût de nous envoyer dans ce camp-là, parce que eh bien, les populations s'en vont. Les gens s'en vont et rejoignent quoi donc? Eh bien, leur village, c'est-à-dire des zones contrôlées par la guérilla. On nous a demandé, mais est-ce que vous avez rencontré la guérilla? Et non, on n'a pas rencontré les hommes en armes, mais bien sûr qu'on a rencontré, parfois sans le savoir, et à notre insu, des gens, des Naxalites, des guerrieros maoïstes, bien évidemment. Et oui, parce qu'ils ne vont pas être déguisés comme dans les films. Ils ne sont pas en uniforme avec des armes venant à nous pour accepter nos questions, répondre à nos questions, bien évidemment. Et donc, on voit que cette guérilla eh bien, on se pose la question de savoir si elle est subie ou acceptée ou revendiquée par la population. Elle est simplement un moyen pour cette population très pauvre, qui sont cette population des hors-castes, des tribaux, des adivasis, comme on les appelle. C'est leur moyen d'exister et se défendre dans cette zone, dans ce qu'on appelle le corridor rouge, cette diagonale à travers l'Inde, qui concerne 80 à 90 millions d'habitants, qui sont complètement délaissés depuis très longtemps, complètement marginalisés, complètement à l'abandon, avec une présence inexistante, peut-on dire, de l'État, ou alors quand il s'agit de forces de police, eh bien c'est pour se faire racketter, et quand c'est l'administration, c'est pour se faire racketter aussi. Donc, eh bien, le recours à la guérilla maoïste a été évidente. Partout où l'État est faible ou inexistant, la guérilla maoïste s'est implantée, et ce, depuis quelques années. Quelques années qui ont vu le développement formidable, une croissance formidable de l'Inde, qui fait l'admiration et parfois étonne et même fait peur à certains, mais un développement formidable de l'Inde. Mais ce développement n'a pas, selon le dogme néolibéral, n'est pas suivi de redistribution. Si bien que le fossé se creuse entre cette partie de la population qui se développe et le reste de la population qui reste pauvre, voire même qui régresse. Et donc, la frustration est de plus en plus grande, et c'est cette frustration qui permet à cette guérilla de se développer, ce qui, on le verra, peut-être n'est pas hostile à ce que souhaite le gouvernement. On va voir ça de plus près. On part avec une phrase de Bertolt Brecht aujourd'hui. On parle toujours de la violence du fleuve, mais jamais de la violence des rives qui l'enserrent. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Inde, la dernière guérilla.
बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा लड्डू बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा लड्डू कपड़े धोंदे तू अखां मार गया डट के बल बल हो गई है कि बेज बेज हो गई है कि बल बल
Nous étions bien au village. Mais les gens riches du village avaient peur. C'est à cause de leur peur que nous avons tous été obligés de venir ici.
Ceux qui étaient propriétaires de terres.
Les propriétaires de terres avaient peur, oui, c'est ça.
Mais les Naxals, ça fait longtemps qu'ils sont dans la région. Et vous n'en avez jamais eu peur jusque-là?
Non, nous n'avions pas peur d'eux.
Pas peur d'eux.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce camp de réfugiés qui préfèrent aller prendre le risque d'aller retourner au village où sont les Naxals.
Oui, parce que nous sommes des villageois, nous vivons dans la forêt. Ici, il n'y a rien pour nous. Nous n'aimons pas faire des ponts, nous n'aimons pas faire la route, abattre les arbres.
Parce que c'est ce qu'on vous fait faire en ce moment. Les gens qui sont dans ce village, certains sont retournés dans leur maison, même si leurs maisons sont dans des villages occupés par les Naks, Salites. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui sont réfugiés dans ce camp vont travailler, vont sur les routes, vont sur des chantiers, vont construire des ponts. Ils sont engagés par les autorités à travailler sur des chantiers, alors que c'est pas leur boulot. Ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs, des éleveurs. C'est pas leur boulot.
Ah.
On l'entend derrière, c'est la pompe, parce qu'il y a une pompe au milieu. Et puis les coups qu'on entend, c'est la lessive. C'est une jeune femme qui fait la lessive. Et c'est une technique comme ça de frapper le linge sur la pierre à côté de la pompe. Alors ainsi, dans cette région du sud de l'état du Chhattisgarh où nous sommes, plus de 600 villages ont ainsi été évacués par la force, en obligeant ces habitants, ces tribaux, ces paysans à s'installer dans les camps. Tous n'ont pas accepté ce déplacement. Certains ont fui dans la jungle et d'autres ont rejoint la guérilla. D'autres ont fui dans les états voisins où les règlements sont différents. Il y a des aides à ces villages. Il y a des militants des droits de l'homme dans la région qui aident les paysans à revenir dans leur village. Alors évidemment, ces associations de droits de l'homme sont poursuivies par l'État pour complicité avec la guérilla, vous vous en doutez. Mais ce qui est intéressant, je parlais de ces milices appelées Salva Judum qui ont assuré, et qui existent toujours, mais qui ont assuré le déplacement organisé, entre guillemets, de ces populations. Or, ces milices Salva Judum, qui prétendent être des milices populaires contre la guérilla, ont un petit problème en ce moment, parce que tout récemment, au mois de novembre, le ministère du Développement Rural a publié un rapport dénonçant le financement de cette milice par qui donc ? Eh bien, par des grands groupes industriels de l'Inde, c'est-à-dire Tata Steel, qui est une grande entreprise, et une autre entreprise qui s'appelle Essar. Et ça a été publié dans Outlook du mois de novembre dernier, ce rapport montrant que les grandes compagnies indiennes financent ces milices pour chasser ces populations de façon à pouvoir accéder et acheter à bas prix les terres qui sont convoitées par ces grands industriels. Pourquoi ? Parce que cette région présente des ressources énormes, des ressources naturelles, notamment en bauxite, qui sont convoitées par ces multinationales. Donc on voit que l'enjeu majeur, il est bel et bien celui-là, alors que le gouvernement, en faisant de la guérilla une affaire de terrorisme et de sécurité, déplace ainsi le problème. On est donc dans ce village de Dornapal avec ces populations déplacées de force et qui, peu à peu, retournent dans leur village, fut-il occupé par la guérilla.
Les gens sont en train de partir et de retourner dans leur village.
Est-ce que les autorités les ont encouragés à repartir dans le village ou ils sont partis malgré tout ?
Le gouvernement veut que les gens restent ici.
Alors donc ils ont désobéi pour retourner chez eux ?
Oui.
Et vous avez bien envie de faire pareil, si j'ai bien compris ?
Nous sommes des paysans. Nous voulons rentrer. Mon mari, il s'était rendu à Delhi pour pouvoir faire de petits boulots, pour nous envoyer de l'argent pour qu'on vive ici. Il voulait absolument qu'on aille aussi à Delhi et qu'on vive là-bas parce qu'il aime bien la vie là-bas. Mais moi, j'ai refusé. Nous sommes agriculteurs, nous sommes des paysans. Je pense que nous devons rester sur nos terrains.
Ah, voilà. Lui, il voulait à la ville et vous, vous voulez pas.
Et nous, on nous a dit que dans les campagnes, il y a tout d'ici, c'est des dangereux terroristes maoïstes qui tuent les gens et qui menacent la sécurité indienne. Et vous, vous voulez quand même retourner là-bas, même s'ils sont là-bas.
Nous n'avons pas peur. C'est à cause de la peur des gens riches. Maintenant, nous regrettons d'être venus ici.
Mais vous n'aviez pas trop le choix.
Les Naxals ne font rien à des gens comme nous. Leur ennemi, c'est les gens riches du village.
Alors on rentre dans une petite cour avec plusieurs baraques quoi autour. Les petits poussins, la poule, les gamelles, le feu. Alors on nous amène tout de suite à un lit de sangle pour nous asseoir. Ça, c'est l'hospitalité immédiate. Voilà. On va s'asseoir là. On est dans cette cour maintenant, avec un papa qui a un bébé dans les bras. Mais vous êtes là depuis combien de temps?
Ce camp de Selva Judum a été ouvert il y a 5 ans. Mm-hmm. Et nous sommes ici depuis 5 ans.
Vous avez été forcé de venir?
On nous a forcé à venir ici. Le monsieur à côté de moi dit qu'on nous a frappés, qu'on nous a battus, qu'on nous a agressés pour nous faire venir ici. Les gens du gouvernement ont fait ça.
Ah, et les autres disent?
Les autres disent non, c'est à cause de la terreur, parce que nous vivions dans la terreur. Donc, entre eux, ils se disputent ou l'un leur dit « Mais attention à ce que tu racontes. » Et celui qui est à côté de moi leur dit « T'inquiète, ce sont des journalistes, il faut qu'ils sachent. »
Ouais, ok, ok. Vous trois, qu'est-ce que vous faisiez au village? Vous étiez des paysans?
Nous étions des paysans ordinaires. Nous n'étions pas chefs de village, nous ne faisions pas de la politique.
Qu'est-ce qu'ils vous demandaient, les Naxalites? Ils vous demandaient un impôt. Ils vous demandaient de l'argent, du riz. Mais ils ne vous battaient pas, il n'y avait pas de violence.
Si, les gens qui refusaient de payer les impôts, surtout les chefs du village, ils frappaient. Il redistribuait les récoltes, surtout du riz. Il voulait que tout le monde possède la même quantité du riz. Non seulement le riz, mais aussi les vaches, le bétail.
C'est-à-dire qu'ils prennent aux riches pour donner aux pauvres. C'est ça?
Oui, c'était leur système de fonctionnement.
Qu'est-ce qui se passe?
Si quelqu'un possédait beaucoup de graines, il leur en prenait un peu pour donner aux autres. Si la personne refusait, il se faisait agresser par
eux. On me dit que beaucoup de gens ont quitté le camp de réfugiés, là où nous sommes, pour retourner au village malgré tout, malgré ça.
Oui, c'est vrai. Oui, beaucoup de gens retournent au village.
Comment s'appelle le village?
Paidagura.
Paidagura. Mais vos maisons sont toujours là-bas?
Dès
que nous sommes venus ici au Judum, En même temps, nos maisons ont été détruites. Nous avons perdu tout notre bétail, nous n'avons plus de vaches, nous n'avons plus rien. Tous nos animaux ont été tués. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui a détruit leur maison.
Ah, ben, ils ont des versions
différentes. Il y en a un qui dit que ce sont des naxels, l'autre dit non, non, pas du tout. Donc,
Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, hein ?
Oui, tu sais pourquoi ?
Non.
Parce que les personnes qui sont arrivées après coup, eux, ils ont choisi l'autre bord. C'est-à-dire...
Les SPO.
Exactement. C'est-à-dire ceux qui font partie des ministres pro-gouvernementales, armés, entraînés par la police, pour faire la chasse aux naxalites.
Et c'est lesquels ? Ceux qui sont à côté de nous ?
C'est celui qui est à côté de Padma, par exemple.
Ah, d'accord, d'accord.
Qui est arrivé entre-temps.
Alors vous êtes qui, monsieur ?
Je suis SPO. Je travaille avec la police. De lutter contre l'ennemi.
Et vous vous êtes déjà battu contre les Naxals ?
Non, pas encore.
Et c'est payé ?
Oui.
C'est bien payé ?
Nous avons un bon salaire. 2150 roupies.
Alors que les Naxals, eux, ils ne payent pas.
Non, les naxalites ne payent rien.
Et vous espérez quoi? Alors, vous espérez entrer dans la police, être engagé dans la police?
Oui, petit à petit, je deviendrai agent de police. Il faudra que j'essaye très, très dur et un jour, j'espère, être employé du gouvernement.
Ce que je remarque, c'est que la maison du SPO est à l'entrée du petit camp dans lequel on se trouve, dans la petite cour dans laquelle on se trouve. La maison qui est à l'entrée, c'est celle du SPO. Et après, c'est celle des paysans réfugiés qui sont d'avis différents les uns des autres.
मोते ना लागी रारे गुंजा हे पाई भी गुंजा हे पाई भी मुंडी टंग या धर लिया चे नाके ठटाई भी रे दादा मुंडे ठटाई भी.
C'est pas tout à fait un camp de réfugiés quoi, c'est un dépotoir. Quand même, évidemment, il y a des petites chèvres, évidemment, il y a des vaches.
नाके ठटाई भी रे दादा मुंडे ठटाई भी.
Ah non, là, il y a des gens qui se reposent.
Mote na la gira, mote na la gira, re gonja he pae bi, mundi tang ya dhar li achi, na ke thatai bi re dada munde thatai bi.
L'objectif était vraiment de dépeupler toutes les campagnes avoisinantes pour priver les naxalites de leur soutien possible auprès de la population.
Ben, c'est ce qui se passe, c'est fait, c'est fait.
On parle de 600 à 700 villages comme ça qui ont été déplacés. Sauf qu'il y a encore des villages, mais c'est ceux où on n'a pas pu aller parce que tout le monde était terrorisé, tout le monde avait trop peur. Des villages qui ont refusé de partir. Ils sont considérés par les autorités comme soutenant les naxalites.
Ce que le flic qualifiait d'imbécile, c'était les villages des imbéciles.
Oui, c'est des gens incultes, analphabètes.
Les enfants du village. Est-ce que vous connaissez Claude Guéant, les enfants? C'est quand même incroyable qu'ils ne connaissent pas Claude Guéant, non? C'est le conseiller de Nicolas Sarkozy. Si ça se trouve, ces gens ne connaissent même pas Nicolas Sarkozy, non?
Oui. Qu'est-ce qu'ils sont heureux?
Oh, mais toi, t'es anti-française. Hein,
Allez-te-vé, tomari man ke-ke-be, mor man ache-ye-be. Mor kingare, tomari man ke-ke-be, mor man ache-ye-be. Mote na la gira, re gunja he pae bi. Mundi tang ya dhar liya che, na ke thatai bi re dada munde thatai bi. Na ke thatai bi re dada munde thatai bi. Na ke thatai bi re dada munde thatai bi.
Alors, vous avez vu, on se détend comme on peut avec nos amis, notre amie traductrice, Padma. Mais enfin, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui se passe pour ses habitants. Une grande opération de répression militaire est en cours dans cette région, l'opération Green Hunt, et il semble bien que ça se passe pas très très bien et que ces populations, peut-être les gens que nous avions rencontrés, que vous entendez aujourd'hui, fuient ces zones pour se réfugier dans les états voisins, notamment l'Andhra Pradesh, où les règlements sont un peu différents, non pas plus caressants pour les habitants, mais un peu différents. Donc on voit que les autorités sont passées à la contre-offensive avec des procédés, d'après les témoignages qui parviennent, qui semblent assez barbare. En fait, il se passe tout simplement que dans ces états comme le Jharkhand, le Chhattisgarh où nous sommes, le Bihar, l'Orissa, etc., où les populations sont très majoritairement en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire les adivasis, les tribaux, c'est-à-dire les hors castes, et ces populations sont parmi les plus marginalisées de l'Inde, très loin de la Shining India, de l'Inde qui brille. Et c'est des populations qui, il faut le répéter encore, sont négligées depuis très longtemps. Et sauf que pour leur plus grand malheur, on vient de découvrir dans ces régions des grands réserves, des grands dépôts de minerais tels que le fer, la bauxite, etc. Et les populations deviennent indésirables sur les terres qu'elles occupent, où elles vivent depuis fort longtemps. C'est une vieille histoire des peuples indigènes. Les voilà tout d'un coup de trop sur leur propre terre ancestrale. Et évidemment, les politiciens locaux sont tout heureux de vendre à la première multinationale venue ces terrains, non sans les avoir auparavant débarrassés de leurs habitants. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette région du monde, mais on l'a vu, ça s'est passé ailleurs, et ça continue de se passer dans beaucoup d'endroits dans le monde, sauf qu'il n'y a pas toujours ailleurs dans le monde une aussi étrange et têtue guérilla. Ah, il y a une jolie maison là, dis donc, là c'est drôlement bien installé là. Bonjour. Bougez pas, il est blessé. Mais...
il est tombé de la branche.
Ah, ah, ah. Ça fait longtemps que vous êtes ici?
C'est la quatrième année.
Et où est votre village?
Mon village s'appelle Ganga.
Vous aussi, vous êtes ici depuis quand, vous, monsieur?
C'est la cinquième année.
La cinquième année. Comment vous vivez ici?
On nous a trompés pour nous amener ici. Le gouvernement voulait que nous venions ici à cause des naxalites qui tuaient les gens. C'est vrai que les naxalites tuaient certaines personnes. Et nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Je suis très embêtée et je ne suis pas heureux.
Est-ce que les naxalites vous
embêtaient? Il fallait assister à leur réunion tous les jours.
Qu'est-ce qui se passait à leur réunion?
Pourquoi vous êtes toujours du côté du chef du village, des gens qui ont de l'argent? Si nous pouvons tous nous réunir, nous serons beaucoup plus forts qu'eux. Ils nous disaient ce genre de choses.
Et ils vous demandaient de venir vous battre avec eux, de rentrer dans la guérilla?
Oui, ils nous disaient ça tout le temps. Nous-mêmes, on était avec eux avant. Nous faisions partie des naxalites avant.
Alors, on nous dit que certains d'entre vous ici quittent le camp de réfugiés pour retourner dans leur village.
Oui, c'est vrai. Ils sont déjà partis. Il y en a beaucoup qui sont partis. Au début, quand nous sommes arrivés ici, le gouvernement nous avait promis beaucoup de choses.
une maison, du travail, de la nourriture. Mais le gouvernement n'a pas respecté ses promesses.
Mais alors, quand ils retournent au village, ils retrouvent les Naxalites, alors?
Ils ont rejoint les rangs des Naxal.
Ah, d'accord. C'est-à-dire que les gens partent d'ici, rejoignent le village et rejoignent les Naxalites.
Demain, si moi je devais retourner au village, je ferai pareil. Je me mettrai avec les Naxalites. Parce que le gouvernement fait de très mauvaises choses ici.
Même s'il faut rentrer dans la guérilla avec eux ou simplement en sympathie.
Maintenant, je suis persuadée que ce qu'ils font, ils ont raison. Alors que le gouvernement n'a pas raison.
C'est pour ça que les autorités ne voulaient pas qu'on vienne dans ce village. Quand ils nous ont proposé d'aller ailleurs, en disant c'est trop loin, vous n'y arriverez pas. C'est qu'il y a une partie des gens qui ont quitté ce camp de réfugiés pour rejoindre les Naxalites au prétexte que le gouvernement ici ne tient pas ses promesses. Il leur avait promis du travail, de la nourriture, etc. C'est pas le cas. Donc les gars se barrent et rejoignent leur village, c'est-à-dire le camp Naxalite. Ça veut pas dire du tout qu'ils ont des convictions politiques, communistes, maoïstes, etc. Mais c'est quand même, ils sont prêts, ils trouvent que c'est les autres qui ont raison. C'est ça qui se passe. Il y a beaucoup de maisons qui sont vides maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté ici le camp de réfugiés?
Non, il dit au moins 3000 personnes sont parties. Non seulement ils ont rejoint les villages, mais ils sont maintenant avec les Naxalites.
C'est pour ça qu'on vous a déplacé, c'est pour occuper vos terres. C'est-à-dire qu'on vous a déplacé pour qu'il n'y ait plus qu'une seule guerre, un conflit avec les Naxalites et le gouvernement. Et une fois que les Naxalites seront battus, eh bien les terres seront accessibles aux grandes multinationales ou aux grandes entreprises nationales comme Tata.
Ah, vas-y. Oui, c'est exactement ça.
C'est tout simplement ça, c'est tout bêtement ça. C'est pas la peine d'être un blanc très cultivé pour comprendre ça.
Oui, nous comprenons ça.
Oui, il suffit d'être sur le terrain pour comprendre ça. C'est difficile de comprendre pour nous parce qu'on est loin et qu'on n'est pas sur le terrain, mais les gens pour le terrain, c'est tout simple.
Tous les villageois savent pertinemment la valeur de leur terre. On sait tous, mais seulement on n'ose pas en parler.
Alors là, la scène est assez étonnante. Il y a la maman à côté. Je vais essayer de décrire la maman. Elle a des colliers en or doré. Elle a un piercing dans le nez.
Ça s'appelle la
un bijou. C'est très joli, c'est très beau, les oreilles, le collier. Et le garçon aussi, il a un collier. Il est très baraqué. Puis là-bas, il y a les filles qui sont dans leur sari rouge, violet, rose. Elles sont absolument magnifiques. Il y a le petit bébé qui est en train de bouffer son riz. Et la maman, de temps en temps, repousse les mouches autour de lui. Mais c'est un très joli jardin. Et voilà. On va continuer la route alors. Mais est-ce que vous connaissez Claude Guéant?
Non.
C'est incroyable. Claude Guéant, c'est le conseiller de Nicolas Sarkozy. Et vous connaissez Nicolas Sarkozy?
Non.
Vous connaissez pas Nicolas Sarkozy?
Non.
Alors ça, c'est incroyable alors. Et la décroissance, qu'est-ce que vous en pensez? Et dites donc, qui a peint la maison là? C'est lui. Eh, c'est beau, hein? Il a fait un beau décor sur la maison, il a peint au-dessus de la porte. Qu'est-ce qu'il y a écrit là?
Choblab, bonne chance.
Choblab. Namasté, Choblab.
Yeah.
conflit au cœur de l'Inde, selon ce long corridor rouge, cette longue diagonale à travers le pays, un conflit peu connu de l'extérieur du pays, mais de plus en plus à l'intérieur du pays, non seulement par les autorités, bien évidemment, le gouvernement, mais aussi nombre de chercheurs, d'intellectuels, de journalistes qui s'intéressent de plus en plus à ce problème et à ce conflit dont on cherche l'origine, au-delà, bien évidemment, tout simplement de c'est des terroristes et on doit terroriser les terroristes. On retrouve Himanshu Kumar, ce militant des droits de l'homme qui habite dans le terrain, enfin qui habitait parce que il s'est fait arrêter tout récemment et il a été obligé de s'installer à Delhi alors qu'il habite dans cette région depuis très longtemps à cause des soupçons qui pèsent sur lui de complicité avec la guérilla Naxalite alors qu'il se contente simplement d'exercer les droits de l'homme les plus élémentaires, mais ça ne plaît pas aux autorités locales. Comment Himanshu Kumar analyse ce point de la situation ?
Les grandes entreprises disent aux autorités locales, au gouvernement, nettoyez la zone et nous arrivons, nous investissons et nous développerons cette région. Voilà la solution, c'est le développement.
Yes, this is unfortunately a very wrong notion that development can take place only when big companies will extract the minerals of this area.
Oui, c'est l'idée parfaitement erronée que le développement n'arrivera que quand les grandes multinationales, les grandes compagnies viendront extraire les ressources naturelles de cette zone.
And the tribal is wise enough. It knows that my development is nothing to do with mining.
Et les tribus sont assez sages pour savoir que leur développement n'a rien à voir avec l'exploitation minière.
If you just throw me away from my land, how will I be developed?
Si vous me chassez de ma terre, comment voulez-vous que je sois développé?
And that is the fight.
Et voilà pourquoi le conflit commence.
Au début du XXe siècle, on appelait ça la colonisation.
Yes, for the interest of the rich. Now, governments using the police to push the people away from their resources, taking over their resources. We have been doing it for centuries. I mean, starting from Red Indians, we have been doing it.
Mais c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire prendre les ressources des populations tribales pour le bénéfice des riches. Depuis l'histoire des peaux rouges, c'est toujours le même schéma qui se reproduit.
I mean, we are so developed, we are polluting our rivers, water, air, everything. And as Mahatma Gandhi has said, that your this way of development and your this way of life will create two problems. One is the war. The other one is the ecological degradation.
And oui, et on est tellement civilisé, on est tellement développé qu'on a pollué notre terre, qu'on a pollué notre air et nos rivières. Et comme disait le Mahatma Gandhi, cet développement va amener à deux choses, la guerre et la pollution écologique.
And because of these two things, your civilization will be destroyed.
Et à cause de ça, votre civilisation sera détruite.
And these tribals are showing an alternative way of life.
Et ces tribus montrent une manière de vivre alternative.
You see, there is no conflict in the tribal society. Yeah. They live very peacefully. They don't steal. They don't hoard. They don't fight.
Il n'y a pas de conflit dans cette société tribale. C'est une manière de vivre très harmonieuse, sans vol, sans combat, sans guerre, sans appropriation.
These tribals are trying to save us.
Et ces tribaux essayent de nous sauver.
They're giving a silent message. Start living like us.
C'est un message silencieux qu'ils nous envoient. Essayez, commencez à vivre comme nous.
You know Noam Chomsky?
Do you know?
Yes,
Chomsky.
Yes.
Et Noam Chomsky finit très souvent ses conférences en citant Gandhi. Parce qu'il dit, on demandait à Gandhi, qu'est-ce que vous pensez de notre civilisation? Et Gandhi répondait, je pense que ce serait une bonne idée.
Allez.
Merci à tous, merci à Himanshu Kumar, Cédric Gouverneur, Shafir Rahman, Ajay Sahani. Merci à notre traductrice Padma Natarajan. C'était un reportage avec Guy Ventil, montage Catherine Pinto. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org à la technique aujourd'hui. Elisabeth Collet et Basile Bocquer. C'est Koyen Nguyen et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Catherine Pinto, toujours elle, attend vos messages au répondeur de la base CGSP au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
De plus en plus de gagnants l'auto le lundi, je vous écoute.
Robinson Crusoe à l'appareil.
Bonjour Monsieur Crusoe.
Et bonjour, je vous appelle de mon île parce que je suis bien embêté avec votre jackpot du lundi. Là.
Ah
et
oui.
Je suis pas mal avec ceux du mercredi et du samedi d'ailleurs.
Oui, que puis-je faire pour vous?
Pourriez-vous faire un échange?
Un échange?
Oui, il s'agirait d'échanger mon vendredi,
oui.
Un vendredi très sympa et en pleine forme, contre un lundi, quel qu'il soit, je ne serai pas regardant.
L'auto, la chance appartient à tout le monde.
Parce que le vendredi, il n'y a pas de jackpot l'auto.
FDJ. Solidarité Haïti avec la Fondation de France. Radio France, France Télévisions et Le Monde lancent un appel à la générosité.
Tout le monde est sinistré. Chez moi, il n'y a plus de nourriture. Chez moi, il n'y a plus d'eau. Mais j'ai aussi besoin qu'on prenne soin de moi, de ma famille et de mes amis.
Apportez-leur votre soutien par chèque libellé à l'ordre de Fondation de France Solidarité Haïti à envoyer à l'adresse suivante Fondation de France, boîte postale 22 75 008 Paris ou via internet sur www.fondationdefrance.org.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut!
En Haïti, 105 000 rations alimentaires ont été distribuées aux sinistrés. Chacune peut nourrir une personne pendant une semaine. Le Programme alimentaire mondial annonce également que son objectif est de distribuer de l'aide à 95 000 personnes aujourd'hui dans 8 points de la capitale et de ses alentours. Un premier site a par ailleurs été sélectionné pour accueillir 100 000 victimes du séisme. L'aide se met en place, on accélère la cadence, mais les besoins restent énormes selon les responsables de l'ONU sur place, tandis que ceux de la Croix-Rouge internationale s'inquiètent dans un communiqué d'un risque croissant de pillage et d'émeutes. 2000 marines doivent débarquer ce lundi. Ils rejoindront les 5000 soldats déjà déployés sur l'île. 7 membres du commando de Taliban qui a attaqué ce matin le centre de Kaboul sont morts, selon le dernier bilan publié par les autorités afghanes. Certains ont été tués, d'autres ont actionné leur ceinture d'explosifs en semant la mort dans le centre-ville. Cette attaque spectaculaire, coordonnée et soudaine a fait 5 morts parmi les civils et forces de l'ordre et plus de 70 blessés. Les propos de Claude Guéant hier sur le sort de nos deux confrères enlevés en Afghanistan scandalisent la Société des journalistes de France 3. Le secrétaire général de l'Élysée avait estimé que le scoop ne devait pas être recherché à tout prix et abordé la question du coût qualifié de considérable de leur sauvetage, ce qui relève, selon la SDJ, d'un cynisme effrayant. Autre réaction cet après-midi, celle de Benoît Hamon. Les deux journalistes de France 3 ont été pris en otage dans un pays en guerre pour suivre les troupes françaises, dit-il, et pour informer les Français sur le sens de cette mission. Le porte-parole du Parti Socialiste estime donc qu'il est de la responsabilité du chef de l'État de tout mettre en œuvre pour les libérer. Nicolas Sarkozy, qui est en ce moment à Mayotte. Mayotte qui deviendra en 2011 le 101e département français, ainsi l'ont voulu les Mahorais. Symboliquement, Nicolas Sarkozy a consacré sa première étape de sa visite sur l'île à une rencontre avec les acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines. Devant 10 000 personnes, il a invité les habitants à participer à cette lutte en refusant d'employer notamment des étrangers en situation irrégulière. Il leur demande également de prendre en main le développement économique de leur territoire. Il faut, a-t-il dit, exploiter son formidable potentiel touristique. Il avait tiré sur le pape Jean-Paul II. C'était le 13 mai 1981, le blessant grièvement. Ali Aksa a été libéré aujourd'hui après avoir purgé une peine de prison de 19 ans pour cet attentat, une autre de 10 ans pour avoir tué 2 ans plus tôt un journaliste turc. Quelles étaient ses motivations ou ses commanditaires? Le mystère est aujourd'hui complet. L'ancien nationaliste turc a promis des révélations, mais dans quelques jours seulement. Il semble néanmoins assez perturbé psychologiquement. À sa sortie de prison, il a été interrogé par des psychiatres pour savoir s'il devait faire son service militaire auquel il avait échappé en raison de sa condamnation. Mais ils l'ont déclaré inapte. Il est 16h03 sur France Inter.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A, H1N1, n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. Pour toute information, connectez-vous sur pandémie-grippale.gouv.fr. Les gestes de chacun font la santé de tous. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
Dans le prochain pont des artistes, Isabelle Dordain reçoit Angélique Kidjo, Ben l'oncle Soul, et Push Up.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Oui, sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En prévision de la folle journée Chopin, qui dure plusieurs jours, bien sûr, comme ton nom ne l'indique pas, à Nantes, un disque a été publié dont nous sommes partenaires à France Inter. Ça s'appelle Le journal musical de Chopin, c'est chez Mirare, et c'est un parcours à travers toute l'existence de Chopin, depuis ses débuts de compositeur à l'âge de 7 ans, jusqu'à la fin, dernière mazurka dictée sur son lit de mort. Là, quand il écrit la première étude en 1827, il a donc 17 ans, il est plein d'ambition. Il a envie de faire sonner le piano de manière très très brillante et de livrer au fond une sorte de mode d'emploi de son instrument favori après tant d'autres, après Jean-Sébastien Bach par exemple, et puis c'est tout à fait réussi bien sûr, première étude. Thank you. Frédéric Chopin, première étude interprétée par Philippe Giuziano. Giuziano qui sera, qui sera une des vedettes évidemment de ces folles journées, qui est un pianiste tout à fait superbe, comme tous ceux qui sont rassemblés là d'ailleurs. Et on va trouver, il sera notre invité, Abdelrahman El Bacha, qui sera le 29 lors du Carrefour de l'Odéon, confronté à d'autres artistes bien sûr. Et ce sera dans le cadre, on ne sait pas encore exactement le lieu. Normalement, Radio France est installée dans une grande cage vitrée au centre du grand hall de la Cité des Congrès. La cité magnifique où il y a des salles très multiples, très nombreuses, où on peut faire des musiques très différentes. Alors Abdelrahman El Bacha va nous proposer maintenant une œuvre de jeunesse, c'est le cas de le dire, mais encore plus jeune que ce qu'on a entendu à l'instant. C'est-à-dire c'est un gamin de 7 ans qui a écrit cette polonaise en sol mineur.